Chapitre 5. Dale sentit la mort avant de la voir. C'était un vendredi, le 3 juin, le second jour des vacances d'été. Toute la bande jouait au baseball depuis le petit déjeuner quand Dale sentit l'odeur. « Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Jim Arlene. Dale allait lancer, mais il s'arrêta et désigna le chemin reliant le terrain de baseball à First Avenue, d'où le vent amenait d'horribles relents, des remugles de charognes, la puanteur des gaz émanant de ventres morts et gonflés. L'odeur approchait. « Blarque !» cria Donalou en se bouchant le nez avec son gant de baseball et se tournant vers la direction indiquée par Dale. Le camion d'écarissage, comme on appelait le véhicule servant au ramassage des cadavres d'animaux, prit lentement le tournant de First Avenue et avança sur le chemin de terre. Sa cabine, d'un rouge agressif, et sa plateforme fermée par de solides planches, étaient maintenant clairement visibles. Dale aperçut même quatre pattes raidies, celles d'une vache ou d'un cheval, difficile à dire à cette distance, dont les sabots pointaient vers le ciel, comme on représente les animaux morts dans les dessins animés. Mais ce n'était pas un dessin animé.
« Oh, pitié !»
marmonna Mike en remontant son t-shirt jusqu'à sa bouche et son nez. L'odeur se fit plus forte. Dale en avait le cœur soulevé et les yeux larmoyants. Le camion d'écarissage s'arrêta au bout du chemin, derrière les poteaux de droite. L'air sembla épaissir et l'odeur s'abattit sur le visage du gamin comme une main gluante. Kevin arriva en courant du troisième piquet.
« C'est Van Syke ?»
Lawrence s'approcha et tous regardèrent le camion, puis Jerry Desinger. Il arrivait que son père conduise le camion d'écarissage ou fauche le cimetière. Petits travaux normalement confiés à Van Syke. Celui-ci n'avait pas d'amis, mais le père de Jerry buvait à l'occasion un coup avec lui.
« C'est Van Syke. Mon vieux fait un chantier à Oak Hill aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut ?»
demanda Donalou en s'approchant, le gant toujours sur le visage. Mike haussa les épaules.
« Vous avez vu un cadavre dans le coin, vous ?»«
Seulement Arlene !»
rétorqua Jerry en lui lançant une motte de terre. Le camion d'écarissage était stationné à 10 mètres d'eux environ. Les reflets enlevaient toute transparence au pare-brise et l'épaisse couche de peinture de la cabine ressemblait à du sang figé. À travers les panneaux de bois de l'arrière, Dale aperçut de la peau noire et blanche, une vague forme de sabot près du haillon et une grosse masse brune et gonflée juste derrière la cabine. Les sabots étaient ceux d'une vache. Il abaissa la visière de sa casquette et put distinguer des os blancs perçant à travers la peau pourrie. L'air résonnait du bourdonnement des mouches qui formaient un nuage noir au-dessus du camion.
« Qu'est-ce qu'il veut ?»
répéta Donalou. Cela faisait plusieurs années qu'elle jouait à l'occasion avec la cyclopatrouille et elle était le meilleur lanceur de l'équipe. Mais cette année, avait remarqué Dale, elle avait vraiment grandi et elle commençait à avoir des courbes sous son t-shirt.
Il n'y a qu'à aller lui demander, suggéra Mike.
Il enleva son gant et commença à marcher en direction du camion. Le cœur de Dale fit un bond. Il détestait Van Syke. Dès qu'il pensait à lui, même à l'école avec les institutrices et le directeur à portée de voix, il voyait les longs doigts maigres et crochus aux ongles noirs, les rides incrustées de crasse sur un cou rougeau et les grandes dents jaunes comme celles des rats de la décharge. L'idée de s'approcher du camion et de cette puanteur lui donnait la nausée. Mike avait atteint la clôture et franchissait les trois passages.
« Hé, attends un instant !» cria Arlene. « Regarde !»
Une bicyclette descendait à toute allure le chemin, prenait le virage et entrait sur le terrain de baseball. Une bicyclette de fille. C'était Sandra Whittaker, l'amie de Donalou.
« Ah, oh, Burke !»
fit-elle en s'arrêtant près du groupe.
« Qu'est-ce qui est mort ?»«
Les cousins Clamsey de Mike viennent d'arriver !»
plaisanta Arlene.
« Il est parti leur faire la bise !»
Sandy regarda Jim d'un air écœuré et secoua ses nattes.
« J'ai appris des trucs. Il se passe quelque chose de bizarre ici.
« Quoi donc ?»
demanda Lawrence d'une voix inquiète en ajustant ses lunettes.
Kangden, Barney et un tas d'autres sont à Hall Central. Il y a aussi Cordy avec sa drôle de mère. Et puis Rune, enfin, tout le monde. Ils cherchent le petit frère de Cordy.
Tabby ? Demanda Jerry.
Il se frotta le nez du dos de la main et s'essuya sur son t-shirt crasseux.
Je croyais qu'il s'était sauvé mercredi.
Ouais,
haleta Sandy.
Mais Cordy pense qu'il est toujours dans l'école. Bizarre autant qu'étrange, non ?
On y va !
S'écria Harlan en courant vers les bicyclettes appuyées à la clôture. Les autres suivirent. Ils tirèrent sur les guidons accrochés au grillage et enfilèrent leurs gants de baseball sur une des poignées ou au bout de la batte qu'ils portaient sur l'épaule.
Hé !
Cria Mike de l'autre côté.
Et Van Syke alors ? Donne-lui un gros bisou de notre part !
Rétorqua Harlan en pédalant de toutes ses forces. Dale suivit, Lawrence juste derrière lui. Dale aussi appuyait sur les pédales comme si la nouvelle apportée par Sandy le passionnait, mais en fait, il aurait fait n'importe quoi pour échapper à cette immonde puanteur. Mike regarda les autres partir. Jerry Deisinger, qui n'avait pas de vélo, se jucha sur le cadre de celui de Kevin. Donalou lança un coup d'œil vers Mike, enfourcha sa bicyclette verte et turquoise, jeta son gant dans le panier et suivit son ami. En un instant, l'écolier se retrouva seul sur le terrain de baseball, seul avec l'épouvantable odeur et le camion silencieux. Il tourna les yeux vers le véhicule. Il faisait au moins 35 degrés ce jour-là. Le soleil était si chaud que des petits ruisselets de transpiration coulaient sur son cou et son visage poussiéreux. Comment Van Syk, enfermé dans la cabine en plein soleil, pouvait-il supporter une étuffe pareille ? Les mouches bourdonnaient, quelque chose bougea à l'arrière du camion. Il y eut un glou-glou et la puanteur devint encore plus insoutenable, presque palpable dans l'air dense. Mike sentit la panique monter en lui, comme lorsque, tard dans la nuit, il entendait des grattements en dessous dans la chambre de sa grand-mère et pensait que c'était son âme qui cherchait à s'échapper. Ou bien lorsque, servant la grand-messe et étourdi par l'odeur d'encens, les litanies, le manque de sommeil, il se mettait à penser au péché et au terrible feu de l'enfer. Il fit 5 pas en direction du camion. Des sauterelles jaillissaient de l'herbe sèche. On distinguait juste une ombre derrière la vitre. Il s'arrêta, fit un bras d'honneur au camion et à ses occupants, morts et vifs, leur tourna lentement le dos et retraversa le passage dans la clôture. Il s'obligeait à ne pas courir, mais il s'attendait à entendre derrière lui la portière du camion claquer et des pas lourds s'approcher. Il n'y avait que le bourdonnement des mouches. Puis un faible bruit s'éleva, un miaulement, qui se transforma en pleurs de bébé. Mike, qui était en train d'enfiler son gant sur son guidon, se figea. Impossible de se tromper. Un bébé pleurait dans ce berceau de la mort rempli d'animaux écrasés sur l'asphalte, de chiens morts aux boyaux éclatés, de vaches gonflées et de chevaux aux yeux révulsés, de porcelets ratatinés. Les pleurs se firent plus aigus, plus forts, devinrent un gémissement en parfaite harmonie avec la terreur de Mike. Puis se transformèrent en gargouillis, comme si quelqu'un là-bas nourrissait un enfant, lui donnait le sein. Les jambes en coton, Mike dégagea sa bicyclette de la clôture et pédala en direction de First Avenue. Il ne s'arrêta pas. Il ne regarda pas derrière lui. Les voitures et les badauds étaient visibles de loin. La Chevrolet noire de Kangden était garée sur le parking de l'école, à côté de la voiture du policier et d'une vieille camionnette bleue qui devait appartenir à la mère de Cordy Cook. Cordy était là, elle aussi, toujours vêtue de la même robe informe qu'elle portait depuis un mois, et la grosse femme à face de lune à côté d'elle ne pouvait être que sa mère. Monsieur Rune et Madame Fodder étaient debout au pied de l'escalier, comme pour défendre l'entrée de l'établissement. Le shérif Kangden et le policier, que tout le monde appelait Barney, se tenaient entre les deux groupes en arbitre. Dale et les autres s'arrêtèrent sur le terrain de sport de l'école, à une dizaine de mètres des adultes. Pas trop près pour ne pas se faire chasser, mais assez quand même pour entendre leur conversation. Mike arriva à son tour et Dale remarqua sa pâleur.
« Et moi, je vous dis que Terence n'est pas rentré à la maison mercredi !»
criait Madame Cook. Elle avait un visage basané, profondément ridé, qui rappela à Dale le gant de baseball de Mike, et ses yeux avaient le même regard gris, délavé, désespéré que Cordy.
« Oui, madame. »
répondit Barney, toujours entre la grosse bonne femme et le directeur flanqué de Madame Fodder.
« Monsieur Roone comprend bien, mais il est sûr que votre fils a quitté l'école. Le tout est de découvrir où il est allé ensuite. »«
Foutaise, tout ça! Ma Cordelia dit qu'elle l'a pas vu sortir de la cour, et mon Terence n'aurait jamais quitté l'école sans permission. D'ailleurs, je lui aurais tanné le cuir s'il avait fait une chose pareille. »«
Allons, Madame Cook !»
commença le shérif, un petit homme gras, chauve et agressif.
Nous savons tous que Tubby, Terence, se montrait parfois malicieux et...
Ta gueule ! Congdon, tout le monde sait que ton fils est la plus malfaisante ordure qui ait jamais possédé un couteau à cran d'arrêt. Alors viens pas critiquer mon Terence ! C'est de là cache quelque chose !
Ajouta-t-elle à l'adresse du policier tout maigrichon en désignant d'un doigt boudiné Roone et la mère Foderche.
Allons, allons, Madame Cook !
Protesta Barney en écartant les mains d'un geste conciliant.
« Vous savez bien qu'ils ont cherché partout et que Madame Fodder a vu de ses propres yeux votre fils Terence quitter l'école ce jour-là avant la fin de la classe. »«
Et moi je vous dis que c'est faux !»
Cordy se retourna et jeta un regard dénué de toute expression à ses camarades de classe groupés derrière elle. Madame Fodder parut se réveiller.
« Je vous interdis de me parler sur ce ton. Cela fait 40 ans que j'enseigne ici et... »«
Je me contrefous de savoir depuis combien de temps vous êtes là !» « Elle ment, maman !»
s'écria Cordy d'une voix aiguë en tirant sur la robe de sa mère.
« J'ai tout le temps regardé par la fenêtre et j'ai vu Tubby nulle part. La mère Fodder, je regardais même pas par la fenêtre, elle !»«
Allons, jeune fille !»
commença Monsieur Roone en tripotant sa chaîne de montre.
« Nous comprenons bien que tu sois bouleversée par l'absence temporaire de ton frère, mais ce n'est pas une raison pour... »«
Alors dites-moi où est mon fils ?»
reprit Madame Cook en s'approchant des marches, comme pour s'en prendre directement au directeur.
« Hé là !»
cria Congdon en reculant. Barney s'interposa, chuchota d'un air grave quelques mots à la mère de Cordy, puis dit également tout bas quelque chose à Roone.
« Vous avez raison. Nous ferions mieux de continuer cette discussion en privé, »
dit le directeur de sa voix sépulcrale. Tout le monde entra dans l'école. Avant d'en franchir la porte, Cordy se retourna de nouveau vers ses condisciples. Mais cette fois, son expression n'était pas hostile, plutôt attristée et peut-être un peu effrayée.
« Il serait préférable que Monsieur Cook se joigne à nous, » dit Monsieur Roone.
« Il est souffrant depuis le début de la semaine, »
répondit la mère de Cordy d'une voix lasse.
« Il n'a pas dessoulé depuis le départ de la semaine, oui ?»
nasilla Harlan, imitant assez bien l'accent d'Oklahoma de Madame Cook.
« Merde, il se fait tard et j'ai promis à ma mère de tondre devant la maison. De toute façon, le spectacle est terminé. »
Lawrence remonta ses lunettes sur son nez.
« À votre avis, où est-ce que Tubby a bien pu aller ?»
Harlan se pencha vers lui, fit une grimace terrifiante et approcha son visage du petit, ses doigts repliés et crochus comme des serres.
C'est un monstre qui l'a enlevé, Bêta, et ce soir, ce sera ton tour.
Bon, ça suffit,
intervint Dale en s'avançant entre Harlan et son frère.
Ça suffit,
le singea Jim d'une voix de fausset.
Fais pas peur à mon petit frère.
Dale ne répondit pas, et ce fut Mike qui dit sèchement.
Tu ferais mieux d'y aller, Harlan, si tu dois tondre.
Ouais. À bientôt, patate.
Et il s'éloigna en direction de Depot Street.
Tu vois, je te l'avais bien dit, c'est bizarre quand même,
remarqua Sandy en s'éloignant roue contre roue avec Donalou. En arrivant à la rangée d'ormes montant la garde sur le côté sud-est de l'école, Donna se retourna et cria aux autres
« À demain !»
Dale répondit d'un signe de bras.
« Bon, ça y est, va rien se passer d'autre, moi je rentre, » annonça Jerry.
L'appel résonna comme le cri de Tarzan lancé par Johnny Westmuller. On pouvait voir la tête et les épaules de Madame Grumbacher dans l'entrebâillement de la porte. Kevin ne s'attarda pas en adieu, il fit pivoter son vélo et démarra aussitôt. L'ombre d'Old Central arrivait presque jusqu'à Second Avenue. Kongden sortit quelques instants plus tard, cria quelques mots désobligeants en direction des enfants et démarra en projetant des gravillons.
« Mon père dit qu'il se sert de sa Chevrolet pour obliger les gens à faire des excès de vitesse »,
remarqua Mike.
« Comment ça ?»
demanda le plus petit. Mike se laissa tomber sur l'herbe et arracha un brin d'herbe.
Il s'embusque dans l'entrée de la laiterie, à l'endroit où la route descend vers le pont. Quand une voiture arrive, il sort en trombe et essaye de provoquer à la course le conducteur. S'il entre dans son jeu, Kongden met son gyrophare en marche et l'arrête pour excès de vitesse. Puis il lui fait cracher 25 dollars. Si l'autre ne se laisse pas avoir, alors il le dépasse juste avant le pont, après il freine à mort et comme le gars est bien obligé de le doubler, il l'arrête pour dépassement à moins de 25 mètres d'un pont.
Quelle merde ce type !
Dit Lawrence avec conviction.
Lawrence, intervint Dale, fais attention à ce que tu dis. Si maman t'entendait parler comme ça,
regardez !
Lawrence bondit sur ses pieds et courut vers un sillon bordé d'une espèce de crête dans le sol.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Les deux autres garçons s'approchèrent.
« Une taupe ?»
suggéra Dale. Mike hocha la tête.
« Trop long. Ils ont sans doute creusé une tranchée pour un tuyau ou quelque chose comme ça.
Ils l'ont mal rebouché, » proposa Dale.
« Regardez, il y en a une autre ici. » Elles vont toutes deux en direction de l'école.
Tout en mâchonnant son brin d'herbe, Mike suivit l'autre sillon jusqu'à l'endroit où il disparaissait sous le trottoir de l'école.
Ça ne peut pas être des tuyaux, ce serait idiot.
Pourquoi pas ?
Mike montra l'école du doigt.
Tu sais bien qu'ils veulent la démolir. D'ici un ou deux jours, quand tous les trucs auront été sortis, on clouera des planches sur les fenêtres et les portes. S'ils...
Mike s'arrêta net, regarda en fronçant les sourcils en direction de l'avancée du toit et recula. Dale s'approcha de lui.
« Qu'est-ce que c'est ? Regarde la fenêtre du milieu, au second. »
Dale mit la main en visière devant ses yeux.
« Quoi ? Il y a quelqu'un qui regarde dehors ? »
dit Lawrence.
« J'ai aperçu une face blanche. »« Pas quelqu'un. Van Syke, »
rectifia Mike. Dale tourna la tête pour regarder en direction des champs au-delà de sa maison, mais le terrain de baseball était trop loin pour voir si le camion d'écarissage s'y trouvait toujours. Madame Cook, Cordy, Barney et la mère Foderche finirent par sortir de l'établissement. Ils échangèrent quelques mots inaudibles et partirent dans des directions différentes. Le véhicule de Roone resta seul sur le parking et, juste à la tombée de la nuit, un instant avant qu'on appelle Dale et Lawrence pour dîner, le directeur sortit à son tour, ferma la porte à clé et partit dans sa grande buick en forme de corbillard. Dale continua à monter la garde sur le pas de la porte jusqu'à ce que sa mère lui ordonne de venir se mettre à table, mais il ne vit pas sortir Van Syke. Il retourna jeter un coup d'œil après le repas. La lumière du soir éclairait encore les sommets des arbres et le clocher verdâtre. Tout le reste baignait dans l'obscurité.